Et alors notre fanum, ben vous en avez un très très bel exemple pas loin d'ici, sur la rive opposée déjà, à Bardon, près de Calmont, où vous en avez un qui a laissé son nom, le moulin du Fa, avec un essence complexe, c'est le fanum, ça vient de là. Le plus bel exemple, c'est celui de Périgueux, la tour de Vézone, c'est tout ronde, parce que là c'est carré, mais ça peut être rond, avec une galerie circulaire, la tour de Vézone, c'est un fanum. On en a retrouvé un, rue Castelnau de Ross à Bordeaux, sous le cinéma. C'est quoi là? Le cinéma, c'est UGC. On a retrouvé un fanum en reposant le cinéma à cet endroit-là. Il y en avait un probablement également sous la place Gambetta. En revanche, le grand temple qui était devant le grand théâtre, le pilier de tutelle, était un temple classique, rectangulaire avec des colonnades, etc. Voilà. On a dans notre département, deux autres endroits où on a trouvé un fanum, c'est à La Motte-Biganos sur le bassin Arcachon et à Fronsac sur les bords de la Dordogne, près de Libourne. Voilà. Mais c'était. On a même le soleil qui arrive, c'est génial.
Ouais.
C'était quelque chose d'intéressant. Alors, quel était le dieu invoqué là-dedans? Eh bien, on est plutôt embêté, parce qu'en fait, on a retrouvé trois divinités différentes. Ça aussi, les Romains aiment bien, au bout d'un moment, faire des réunions. On appelle ça le syncrétisme. Il y a des choses qui ont scandalisé il y a quelques années. En faisant des fouilles du côté de Saint-Pierre de Rome, en récoutant, ils ont trouvé une statue, ils ont compris qu'elle se cachait, qui est toujours censurée d'ailleurs aujourd'hui, parce que c'était une statue d'un personnage qui était crucifié. Crucifié, c'est lui, on se disait c'est Christ, et que c'était que quand ils ont découvert, ils ont dégagé d'abord la croix avec le personnage qui était cloué dessus, donc ça ressemble bien au Christ, et quand ils sont arrivés à la tête, je peux vous assurer qu'ils ont fait une grimace épouvantable, parce que la tête du personnage qui était crucifié était une tête d'âne. Et ça, ce document-là, vous ne le trouvez pas dans les publications pour le moment, ce genre de choses. Ça fait partie en fait des idées qu'avaient les Romains, c'était des associations d'état de religion. Au bout d'un moment, ils ont tout mélangé. Pour invoquer une divinité un petit peu solaire, au 3e siècle, ils ont réuni tout qu'on appelle le Sol Invictus, c'est-à-dire le soleil invaincu, qui sera vraiment la divinité des empereurs du 3e siècle, dont de notre empereur bordelais. Parce que vous savez qu'à Bordeaux, on a nommé un empereur. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. Non, vous connaissez pas l'histoire du seul enfant nommé à Bordeaux? Non, personne n'est au courant de.
Peut-être,
mais. Au 3e siècle? Non? Non, ça dit rien à personne? Non, mais j'ai pas envie de vous raconter. On va insister si vous le voulez. Si vous... Non.
À part le pape Clément, on connaît pas.
Voilà, alors les trois divinités identifiées. Les trois divinités identifiées sur les peintures murales, parce qu'on a retrouvé de superbes peintures murales à l'intérieur, on a une invocation qui semble être une invocation à Apollon. Et puis on a trouvé des éléments comme cette tête de bélier que vous avez là, qui fait plutôt penser à Mercure. Ce sont des attributs. Chaque dieu avait un attribut. Mmh. Et donc cet élément-là, qui était l'un des éléments les plus fins. Un truc que des morceaux de statue à l'intérieur, qui est assez abîmé. Et enfin, on a un troisième élément qui fait penser à un culte à Hercule. Voilà. Rien de concret. On a trouvé quelques déesses mères en poterie blanche, un peu partout dispersées sur le site. Mais sinon, rien de bien concret, mis à part ces enduits peints collés contre les murs, et puis le sol de qualité. C'est-à-dire qu'en fait, le sol, on va y rentrer, il y a des cailloux dessus, mais nous, ce qu'on adorait tous les soirs quand on finissait notre chantier, c'était de balayer, parce que le sol était superbement conservé, c'est un sol de mortier. Avec le temps, il était devenu un peu incurvé vers le centre du temple, mais il était d'une qualité que pour travailler, on était assis là-dessus, on était vraiment bien, hein, à ce niveau-là. Alors, je vous invite à descendre dans le temple, on va descendre de ce côté-là. Oui. Dans les
seules traces identifiées. Et apparemment, ce sont également les traces des carriers, parce qu'on y a retrouvé un four à chaud. Et un four à chaud qui dit four à chaud dit effectivement la volonté de brûler les pierres. Mais il y a des choses qu'on a eu du mal à expliquer. Le gros massif, l'énorme masse que vous avez devant, ben derrière, on retrouve encore les restes d'hypocaustes et de tuiles. Canal qui sert dans les murs, et on a envisagé là aussi la possibilité de terme. Alors vous allez me dire, oui, mais on n'est pas très loin de ce qu'il y a derrière. Finalement, est-ce qu'effectivement c'est pas la suite du bâtiment, pourquoi pas? Donc là aussi, il y a une hypothèse de terme romain, sauf que des hypothèses n'ont jamais pu être démontrées. L'ensemble de la cour était pavée, assez mal aujourd'hui, mais elle était pavée, et donc il y avait un podium à l'entrée sur lequel vous êtes assis, qui permettait de faire sortir, on dirait, la divinité, la présenter au public à l'extérieur. Et donc après vous avez la porte principale et on va rentrer par la porte principale. Allez, venez. Toutes les choses en place. Vous avez en particulier l'emplacement des gonds.
ici, et l'emplacement de ce qui permettait de mettre le petit crochet qui fermait la porte derrière. Et ce qu'on a trouvé ici avec les traces qui apparaissaient laisse supposer que ce n'était pas deux vantaux avec deux portes qui s'ouvraient, mais en fait un système de ventail qui se pliait en un peu comme en deux morceaux. Ça s'appelle dans la maison où on met les
gazelles.
Paravent, merci.
Comme j'ai gazelle.
Donc effectivement, on a un système d'ouverture assez monumental quand même à cet endroit-là. Les murs sont pratiquement conservés. Vous avez remarqué ces grosses briques que vous avez aux angles. Ils sont la seule décoration. C'est-à-dire qu'on avait des pilastres d'angle assez monumentaux qui ont été restaurés. Ils étaient vraiment en très très mauvais état. Vous les avez de l'autre côté. C'était apparemment la seule décoration. Un peu de marbre très discret, des enduits peints à l'intérieur, pas de mosaïque, un simple sol de béton. Ça fait quand même un temple un peu pauvre, hein, malgré tout. Hein. Ça ressemble un peu à l'ensemble de l'agglomération. Alors, comme ça, une dame vient de me faire remarquer, à quoi sert la cage d'ascenseur qui est là? Ben, on va aller le voir, justement. Vous avez donc la restauration des angles du temple qui apparaissent très bien de ce côté. Ça, il y en avait déjà dégagé un. Nous étions nous dans l'angle de ce côté-là. C'est l'endroit auquel j'ai participé au dégagement 88. C'était l'angle opposé du temple. Alors où nous sommes là, vous avez un gros trou. Vous allez dire, mais dites donc, le monument, il y en a encore beaucoup dessous. Oui, mais ça ne se voyait pas à l'époque romaine. Parce que vous êtes sur le sol. Le sol de béton, il est là, il est juste dessous. Et donc, on a mis du gravier dessus. Mais ça, c'est la fondation du temple. C'est que quand on voit un monument qui est, ça fait pratiquement 1,50 m à 2 m de hauteur, quand vous voyez une qualité de construction comme ça, là vous avez un édifice de qualité. Et le où j'ai les pieds à cet endroit-là, ça correspond au sol. Donc en fait, il ne reste de hauteur conservée que 3 niveaux de moellons, comme le temple pratiquement, 3 à 4 niveaux de moellons. C'est assez modeste. Par contre, le sol était entièrement conservé, pas un trou dedans. Et on a retrouvé l'emplacement de la statue pratiquement sur le mur. De ce côté-là. Mais il n'y avait rien d'autre.
C'était bouché, là, par la terre, en fait.
Ah oui, il y avait un sol de mortier. Voilà, c'est le sol que vous avez depuis l'eau, qui a été cassé pour voir. Alors, l'idée des archéologues, c'était surtout d'essayer de voir s'il n'y avait pas un dépôt de fondation. Parce que lorsque l'on fonde un édifice religieux comme ça, on fait un dépôt, souvent un trésor. On cache dans les fondations un petit trésor monétaire. Et là, ils n'ont rien trouvé. Ils sont arrivés pratiquement au niveau du rocher. Ils n'ont rien trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un.
Ah oui, ailleurs. Il
pas à cet endroit-là.
Donc ils cherchaient tout autour. Le
but, c'était en même temps d'essayer de voir jusqu'où descendaient les fondations du temple.
Parce qu'ils cherchaient finalement quoi, un sol portant du rocher pour
faire. Ah, ils voulaient voir jusqu'où descendaient les fondations et je vous dis éventuellement voir s'il n'y avait pas un dépôt de fondation
dessous. C'était plein dessous quand même la façon.
Oui, c'était absolument plein d'un blocage de pierre, c'était concassé, et plusieurs niveaux successifs de mortier également. Hein. Pour que notre sol de mortier se soit juste un peu incurvé dans la partie centrale, c'est que le sol qui était dessous était béton. Excusez-moi. Voilà. Et alors, on va faire notre petit tour de procession. Donc on va rester dans la galerie en extérieur. Vous pouvez rester dans la cella si vous voulez. On va aller voir ce qui se cache derrière le mur. Parce qu'il y a petit... Vous tournez autour de la cella en faisant de la musique, en chantant, en vous baladant avec peut-être des flambeaux. Bon, ça fait penser à Lourdes, mais c'est peut-être pas trop l'idée. Ce qui est certain, c'est qu'à cette époque-là, ils chantent, ils font beaucoup de musique, c'est très bruyant. Et ça tourne un moment autour de la cella. Soit. De l'autre côté, dès que vous avez quitté la galerie, donc il y avait ici des colonnades qui permettaient de tourner autour du temple. Quand vous êtes passé dans cette autre galerie ici qui n'était pas couverte, vous arrivez donc en limite de zone sacrée. Le péribole et le mur qui est ici faisaient complètement le tour de l'aire sacrée. Donc tout ça était réservé qu'à la divinité. Qu'a-t-on de l'autre côté? Il n'y avait pas de porte, hein, de ce côté-là. Mais de l'autre côté, vous avez une rue. Là, il y a une rue qui est exactement dans le même axe que la rue des pseudo-thermes qu'on va voir de l'autre côté, ou de la maison tout seule dans l'herbe où nous étions au début. Et regardez bien, ici, on a la chance d'avoir un axe transversal. Vous avez les angles d'une maison ici et l'angle d'une maison ici. Mmh. Et là où je me dirige, je suis dans une rue. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez la perpendiculaire qui s'en va et qui finit sous l'arbre là-bas et qui s'arrête brutalement au niveau de l'arbre. La, la rue ne va pas plus loin. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est assez aberrant.
C'est même pas.
Ils ont poussé à l'extrême ce plan orthonormé et ça finit dans le vide. C'est-à-dire que la rue que vous avez là,
finit en bouillant en douille, quoi.
Sur le bord du marais. Voilà.
En cul de marée, car la marée. Bah oui, voilà. C'est une voie sans issue.
Voilà,
c'est ça.
Et là-dessous.
Et qui est toujours en eau. Puis maçonner les pauvres promesses. On le voit.
Non, maçonner du coup. C'est des pauvres promesses.
Oui, le puits est en dessous.
Naturel, il n'y a pas besoin de mur, c'est le marais.
C'est le marais. Voilà, pas de trace de rempart, pas de limite pour mettre le marais.
Mais c'est un puits qui date de quand ça?
Vous avez une petite époque antique, romaine.
Ah, oui.
Oui, mais il y a le grand au fond.
Ah, il y a une tuile aussi.
Venez voir. Regardez, alors c'est ici que ça se passe. Regardez, vous avez les poutres en bois essayent de dégager un espace dans lequel vous avez un mur renversé. Eh bien, le mur renversé, c'est carrément un morceau du mur de la Sela, de la tour. Qui apparemment, lorsqu'elle s'est effondrée, il y a un pan entier qui pourrait être un pan de près de 2 mètres de longueur de ce mur de cette tour qui est tombé ici. Alors ça n'a pas été dégagé parce que ça pourrait être un élément suffisant pour restaurer en élévation, ou tout du moins imaginer en élévation, ce que pouvait être cette tour. Alors ça a fait énormément sensation quand ça a été découvert à cet endroit-là, parce que figurez-vous qu'au même moment en Normandie, ils trouvaient un fadum avec tout le mur entier du fadum qui était tombé et qui avait été fossilisé dans le sol. Et qui était conservé sur pratiquement 8 mètres de hauteur. Donc ça, c'était absolument génial. Et là, ici, ils y ont cru également, parce que là, effectivement, vous avez un mur. Probablement que les carriers devaient taper sur la base des murs et que les murs devaient s'effondrer. Et celui-ci est tombé, en fait, d'un seul tenant. Et il est donc tombé dans la galerie, à cet endroit-là. Et il est conservé, et on voit les niveaux en briques. Et alors, grâce à ça, et grâce aux peintures et ce qu'on y a trouvé, la construction de ce temple est assez bien datée. Elle est datée entre 70 et 80 après Jésus-Christ. Donc une datation un petit peu plus récente que le théâtre, qui est daté des alentours de 40-50 après Jésus-Christ. Voilà. Donc là, vous avez quelques petites maisons, qui sont les dernières structures du IVe, vous en parlez. Et donc ça, ce sont les traces les plus récentes. On y a trouvé en particulier des monnaies de l'époque de Constantin Ier, mais qui s'imitent à ça. Alors, je voudrais finir. Je vous ai laissé réfléchir. Et l'empereur romain nommé à Bordeaux. C'était qui ?
Enregistre, Christiane.
Constantin, alors ?
Non, pas du tout. Nous sommes dans les années 260, nous sommes au 3e siècle. À ce moment-là, vous savez que c'est la crise de l'Empire romain, c'est une grande crise, hein, c'est ce qu'on appelle la période de l'anarchie. Marc Aurèle, c'est avant même. C'est une période d'anarchie militaire, l'Empire romain est sur le point de s'effondrer. Honnêtement, il n'aurait pas fallu grand-chose de plus pour que l'Empire romain disparaisse. Et il y a des gens qui ont tellement peur que plutôt que d'attendre que l'empereur romain avec ses armées débarque pour les sauver, ils ont préféré se débrouiller tout seuls. Ça se passe à deux endroits différents dans l'Empire romain. Ça se passe du côté de Palmyre, avec Zénobie, la reine de Palmyre, qui ne peut plus supporter les invasions des Perses, et qui va se débrouiller à créer un royaume indépendant. Mais en même temps, respectant les rouages romains. Et à l'opposé, en Gaule, on assiste à la même chose. On va avoir trois empereurs successifs qui vont le premier va s'auto-proclamer presque tout seul, puis après ça va être une véritable dynastie. On va revenir surtout celui de Bordeaux. J'ai plus trop de mémoire sur les trois personnages. Les deux premiers sont des chefs militaires, ce sont des militaires. Ce sont des militaires. Ils ont tous un point commun, ces trois personnages. C'est pas le côté militaire, parce que le dernier n'était pas militaire, c'était un gouverneur, c'était un administrateur, un administratif. Ils ont un point commun, tous ces trois personnages, c'est qu'ils ont tous un point commun avec une femme, que l'on connaît, qui s'appelait Victorina. Alors il y a eu un superbe roman historique qui a été fait c'est Anne de Le Seluc, je crois, qui est habituée dans les romans historiques de l'époque romaine. C'est un bouquin qu'on trouve plus, il a été vendu dans la foulée tellement que c'était superbe à lire, et qui effectivement révèle que Victorina a été la mère du premier, a été l'épouse du second et l'épouse du troisième aussi par la suite. Et qu'en fait c'est bien elle au bout du compte qui les a nommés, qui les a chapeautés d'une certaine façon. Seulement voilà, les deux premiers s'ils s'en sont bien sortis, enfin encore qu'ils ont été assassinés tous les deux quand même, au passage, c'était des militaires, ils étaient malgré tout pas officiels. C'est-à-dire qu'en fait ils ont appelé ça les trois empereurs gaulois. C'est-à-dire qu'ils ont créé un empire gaulois, qui va exister à peu près une vingtaine d'années et qui va permettre à l'empire romain de tenir. Et c'est pour ça que les empereurs romains, finalement, vont pas trop leur en vouloir sur le moment, tout du moins sur le moment. Et les deux premiers temps des militaires, ils sont morts quand même violemment, assassinés par leurs troupes, bien souvent. Et dans la foulée, on va essayer d'en nommer un autre, qui était gouverneur d'Aquitaine, qui est établi à Bordeaux. Et qui va donc être proclamé empereur par l'armée, alors que ce n'était pas un militaire, et il sera nommé à Bordeaux, il s'appelait Tétricus. Ça vous dit rien, ça ? Non, pas Détricus. Tétricus, s'il vous plaît. Tétricus, T-E-T-R-I-C-U-S. Tétricus est donc nommé, c'est le seul empereur romain que nous avons qui a été nommé à Bordeaux, ça sera le dernier empereur gaulois, et Tétricus Alors avant lui, il y aura eu Postumus, et le troisième reviendra, finira par me revenir. Et donc effectivement, Tetricus est bien embêté, parce que lui, c'est surtout un administrateur, et les gouverneurs, c'est pas trop un militaire, même s'il a sûrement touché un peu à ça aussi. Et il est embêté parce que l'armée veut absolument le faire œuvrer. Au même moment, on a des épidémies de peste qui ravagent toute la Gaule aussi. On a des problèmes de gens tellement pauvres, de brigands, de troupes, de campagnards qui se baladent, qu'on appelle les bagodes, et qui sont des gens assez violents. Enfin, c'est vraiment le chaos en Gaule à ce moment-là, c'est vraiment épouvantable. Et donc, à ce moment-là, Tetricus est quand même rattrapé, ça, il ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite, par l'empereur officiel. L'empereur officiel, il y en avait un malgré tout à ce moment-là. Et cet empereur officiel, va revendiquer, comme ça se passe un petit peu mieux, que ça se calme dans l'Empire romain, on veut refaire l'unité. Eh bien, notre empereur officiel va d'abord s'occuper de la reine Zénobie à Palmyre, qu'il va tout simplement combattre. On envoie les troupes romaines. Palmyre tombe. Palmyre est ravagée, rasée. La ville de Palmyre ne servira plus par la suite. Zénobie est traînée dans une sorte de triomphe à Rome et elle sera exécutée à Rome. Pour qu'on arrive du côté des Gaulois, Tetricus commence à trembler parce qu'il se dit il va m'arriver la même chose, ça va mal se passer. Et donc Tetricus va se débrouiller. Il ne veut pas se faire zigouiller par l'armée, ce qui est arrivé à ses deux prédécesseurs, et donc il veut essayer de se débrouiller. Et donc effectivement, il va négocier une sorte de pseudo-bataille qu'on appelle la bataille de Châlons-sur-Marne. Ça se passe donc en Champagne. Et donc Tetricus va faire semblant de perdre la bataille, se rendre prisonnier à l'empereur officiel pour ne pas être tué par son armée, et en même temps pour réussir à négocier une fin honorable auprès de l'empereur. Et donc l'armée, elle, de son côté, son armée se fait complètement écraser, ils sont tous tués sur le champ de bataille. Et Tetricus est emmené malgré tout prisonnier en triomphe à Rome. Il faut malgré tout que l'empereur en place se débrouille à sauver la façade. Et Tetricus, finalement, contrairement à Zénobie, ne sera pas exécuté. Lui, au contraire, il va être nommé gouverneur par la suite de Campanie. Et il avait fait en plus une petite bêtise, c'est qu'en même temps il avait profité pour associer son fils à son trône, Tetricus II, qui était un petit gamin de 12 ans, et qui était nommé César à ce moment-là, et même Tetricus II, comme son père, vont être pardonnés et re-rentreront dans les rouages de l'Empire. Et bien cet épisode-là, en fait, s'est passé dans notre région. Voilà, Tetricus est à retenir. Si vous voulez plus de détails, prenez le dictionnaire de Bordeaux, qui doit être encore disponible chez Mola, et vous retrouverez la rubrique Tetricus, que je me suis permis de rédiger. Donc vous retrouverez à peu près toute l'histoire que je vous ai racontée. Voilà. Quand tout le monde puisse loger entre les deux flaques. Nous sommes sortis de l'île, hein. Vous avez remarqué que vous étiez en train de descendre. On voyait ce bout d'île qui se formait tout doucement. Donc là, vous êtes sur une partie marécageuse. Et les ponts de Brion, parce qu'il y en a trois, vous êtes sur le plus évident. Mais il y en a deux autres avant qu'on a franchi, un peu plus discrets. Les ponts de Brion, ils ont fait parler beaucoup d'eux parce qu'on a cru un certain temps qu'ils faisaient partie d'un système défensif avec des remparts et que l'agglomération antique avait été fortifiée au IIIe siècle avec un système de pont-levis qui existait à ce côté-là. Mais pas du tout, parce que les ponts que vous avez, même s'ils sont bien bâtis avec des pierres tirées du site, ces ponts sont d'époque moderne, d'ancien régime, probablement 17e, voire même 18e siècle, donc extrêmement récent. En revanche, c'est vrai que c'est l'endroit où l'île est la plus proche du continent. Parce que le continent, il est là, ce sont les vignes. Et là, vous êtes dans... Il y a quoi? Il y a une distance très courte. Dans ce secteur-là. Et donc, cette zone de marée, nous, vous a intéressé fortement. Parce qu'on avait des couches de tourbe.
Attention, vous mettez les pieds.
Il y a un trou, là.
Attention, il y a des trous derrière, Claude.
Il y en a comme dit que nous avons fait, mais c'est dans la prairie que vous avez derrière, il y avait des chevaux à ce moment-là, il n'y en a plus. Et c'est donc à partir de là qu'on a obtenu les datations les plus intéressantes là-dessus. Alors, en quoi les datations ont été contestées? Vous savez que les datations en carbone 14, alors on lit beaucoup de choses sur internet pour vérifier tout ça, sont paraît-il fortement faussées quand l'eau, la nature de l'eau qui est véhiculée dans la rivière qui est à côté, est calcaire. Le calcaire, paraît-il, vient bouleverser les datations ou le même du soleil, c'est extraordinaire, ça y est, il arrive. Et alors, il se trouve qu'ici, effectivement, l'eau est calcaire. Seulement, ce qu'on nous a reproché en nous disant vos datations, elles ne sont pas bonnes parce que l'eau, elle est calcaire, ça a faussé les datations en carbone 14. Ça.
C'est son mari.
C'est son mari.
Il est tombé. Il n'est pas tombé. Quand notre datation avait été fausse, effectivement, on se serait retrouvé parce que cette étude sur le marais de Brion, on l'a pas faite ici. On l'a fait sur le marais de la Perge, on l'a fait sur le marais de la Péroche à l'île de Léron, on l'a fait sur le marais des Monards à Barzan, on l'a fait sur le marais de Saint-Cé-sur-Gironde, on l'a fait sur le marais d'Ordonnac, qui est pas loin d'ici, au passage aussi. Et si notre datation avait été fausse, on pense qu'effectivement, on aurait eu des datations différentes sur tous les sites. Or, de l'île de Léron jusqu'à Bordeaux, toutes les datations sont identiques.
Donc, ah bon,
à ce stade-là, quand vous avez des choses qui sont aussi linéaires que ça, ah, ça veut dire quelque chose. Alors vraiment, bah, dans ce cas-là, on peut effectivement douter de tout. Hein. On peut, vous avez tout à fait raison. Mais là, dans ce cas-là, moi je maintiens le fait que ce marais était bien comblé au néolithique. Et comme aujourd'hui vous avez une rivière, ben, vous avez pu avoir un chenal peut-être plus large et plus profond qu'aujourd'hui à l'époque romaine, il y a 2000 ans de ça, dans lequel pouvaient rentrer des bateaux, on est bien d'accord. N'empêche, au néolithique, ce marais était déjà tombé. Voilà. On joue sur les mots, hein. C'est une histoire de...
C'était peut-être un Nesteuil.
La grandeur des bateaux.
Oui. Enfin, les bateaux romains peuvent être grands. Celui qui a costé à Bordeaux, vu celui qu'on a trouvé à Cadoujac, là, dans la Garonne, c'était quand même une belle embarcation. Donc, on peut avoir de gros bateaux. C'est pas les grands vaisseaux du 18e. Hein. On est bien d'accord. Mais on peut envisager une gabarre, un bateau de la taille d'une gabarre, rentrant dans ce marais. Moi, j'y crois volontiers. Après, c'est une histoire de mauvais sport.
Et c'est des bateaux qui venaient des Méditerranées ou qui étaient construits
sur... On a des bateaux qui, effectivement, ont pu faire le contour par les colonnes d'Hercule, par le sud de l'Espagne. Ouais. Parce que nous avons maintenant certitude d'avoir des comptoirs phéniciens jusqu'à Angalis, au niveau de Saint-Jacques-de-Compostelle, et on sait très bien que les Romains ont pu faire le tour. Mais d'un point de vue économique, pour eux, c'était plus rentable quand même d'utiliser l'axe Garonne pour faire le transfert. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'amphores italiennes qui ont circulé dans en Garonne, en fait, hein, qui après remontaient des fleuves en parallèle, comme la Dordogne, le Lot, etc. Voilà.
C'est pas les miens, je m'en fous.
Bon, mais notre visite sur l'île de Brion, bah, puisqu'on est sur le continent, bah, on va faire demi-tour, parce qu'après, bah, on change de domaine. Il nous reste un petit peu de temps, si vous êtes tenté, moi, je suis prêt à vous emmener sur l'emplacement du dolmen.
Ah oui, oui.
Ça vous tente, hein, je pense que c'est la main.
C'est intéressant,
ouais. Oui.